Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce séminaire Les établissements scolaires en changement. Je vous accueille donc au nom de monsieur le recteur qui est actuellement un petit peu le recteur Chex. Qui est au rectorat et qui, en raison d'une manifestation, ne peut malheureusement pas nous rejoindre pour l'instant. Il essaiera peut-être de venir dans la journée, mais je crois que son agenda va être très, très pris aujourd'hui. Alors donc, en son nom, un grand merci d'être là. Nous avons l'honneur d'accueillir pour la DGESCO, au nom de la DGESCO, Christiane Véret, qui est responsable à la DGESCO de la mission de valorisation de l'innovation pédagogique et des expérimentations. Est également à cette table Michel Bois, qui représente le directeur de l'INRP. Et nous avons donc dans cette salle des collègues de 11 académies différentes, Aix-Marseille, Caen, Clermont-Ferrand, La Réunion, Poitiers, Lyon, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg et Nantes, bien entendu, qui est largement représentée. Alors, des remerciements tout d'abord à nos deux partenaires, les deux piliers qui ont construit ce séminaire, c'est l'INRP et nos collègues de l'innovation de Lyon et le CREN, qui est le Centre de recherche en éducation de Nantes, avec qui nous avons co-construit entièrement ce séminaire. Merci aussi aux missions donc, de valorisation de l'innovation pédagogique de l'ensemble des académies. Alors, monsieur le recteur souhaitait préciser la place de ce séminaire dans la politique académique. C'est le second séminaire d'une série de deux sur la thématique de l'évaluation. Le premier a eu lieu en février dernier sur le thème de la culture de l'évaluation et le développement professionnel des enseignants. Ces séminaires s'inscrivent dans l'une des priorités du projet académique intitulé CAP 2015. Ils s'inscrivent dans l'axe d'un système éducatif efficace et efficient. Priorité dans laquelle le pilotage par la performance s'accompagne d'une confiance a priori dans les acteurs engagés et d'une évaluation a posteriori. Le pilotage par la performance qui n'est envisagé qu'en étroite articulation avec la liberté pédagogique des enseignants, avec la liberté pédagogique des équipes et avec l'autonomie des établissements scolaires. Une spécificité de ces deux séminaires, ce sont deux séminaires qui sont délocalisés, au bon sens du terme, délocalisés en province. Ils préfigurent les nouveaux modes de relations plus partenariaux entre les académies, la DGESCO ici présente, et l'INRP et les centres de recherche des universités et les IUFM. La collaboration avec l'INRP se poursuivra sûrement dans les années à venir. Les thèmes ne manquent pas. Une poursuite des réflexions sur l'évaluation est envisagée sous la forme d'une recherche-action accompagnant l'auto-évaluation des établissements. D'autres thèmes encore, comme les disparités géographiques fortes dans notre académie, ou le développement de compétences psychosociales dans le cadre du développement des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté et en lien avec le socle commun pourrait également être envisagé. Donc voilà les mots d'introduction intégrant ce séminaire dans la politique académique Donc, je passe la parole à Christiane Verret.
Je vous remercie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors d'abord, je voulais remercier monsieur le recteur et vous, Christine, et l'INRP, de nous avoir conviés aujourd'hui, enfin ces deux jours, mais malheureusement, on ne pourra être là que ce matin, étant entendu que demain après-midi, un autre collègue nous succédera. Alors, c'est vraiment toujours très important pour nous de venir dans ce genre de manifestation, parce que même si l'administration centrale a toujours ce rôle, et bien évidemment, de pilotage des expérimentations, surtout depuis toujours et plus que jamais, j'ose dire que c'est quelque chose qui réellement devient une priorité, l'expérimentation. Il s'agit pour nous peut-être à chaque moment de connaître un peu mieux sur le terrain comment ça se passe. Et ce genre de manifestation est l'occasion pour des collègues venant de plusieurs académies de mieux percevoir ceux qui s'engagent dans les établissements ailleurs aussi. Parce que l'expérimentation, particulièrement pour l'article 34, est une expérimentation tout naturellement issue de l'établissement. Et ce regard un peu plus général sur ce qui peut se faire ailleurs est très très important. Alors, je vous demande tout d'abord d'excuser l'absence de Patrick Halal, notre chef de service, puis d'Elisabeth Monlibert, notre sous-directrice, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup beaucoup de priorités qui s'inscrivent à la Direction générale d'enseignement scolaire, et plus précisément, et encore plus généralement, au ministère de l'Éducation. Vous vivez dans les académies, nous en administration centrale, c'est vrai aussi, c'est vrai à tout moment. Donc c'est très compliqué d'organiser tout ça, mais il y a pourtant une vraie volonté pour nous d'être présents. Alors, dans le programme, je vois que l'intervention portait sur les enjeux des expérimentations article 34, le point de vue de la DGESCO. Alors, je vais donner un avis sur ce que représente pour nous et pour vous, sans doute, l'expérimentation article 34, qui est quand même quelque chose de très important. Puis après, je serai un petit peu plus générale pour parler des expérimentations de manière complète, puisqu'elles ne s'inscrivent pas forcément dans l'article 34 et qu'elles présentent pour nous énormément d'intérêt aussi. Il s'agit pour nous d'avoir connaissance effectivement de ce qui s'engage dans le cadre de cet article 34, mais bien au-delà de tout ce que représentent les innovations. Alors, il n'y a pas de doute, hein, les expérimentations sont le vecteur de l'évolution du système éducatif. L'école, c'est son rôle, se doit de participer activement au progrès social, et l'expérimentation est un levier important au changement indispensable que doit connaître notre système éducatif. Si on reprend précisément l'article 34, très rapidement, je rebalayerai le cadre général de ce qu'est l'expérimentation article 34, c'est-à-dire un cadre légal qui s'inscrit dans la loi du 23 avril 2005, la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, qui arrête le principe que la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Prendre en compte les différents rythmes d'acquisition, organiser un accompagnement adapté, sont autant de moyens d'accompagner chaque élève vers la réussite. Alors, l'article 34 de cette même loi, intégré dans le code de l'éducation, dispose que dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le même article prévoit que, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations pour une durée maximum de 5 ans, pour une durée portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou d'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou les jumelages, etc. Et puis, il précise, et ça c'est quand même très important, et ça a été l'objet du précédent séminaire, comme vous le rappeliez très bien Christine, ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. Alors, À l'administration centrale, ce qu'on voit clairement, c'est que les expérimentations article 34 sont vraiment une dynamique importante de la politique du projet d'établissement. Hein. Lorsqu'une équipe s'engage dans cette expérimentation, elle explique souvent, la plupart du temps, on voit bien clairement ça, elle s'appuie sur des données objectives. Alors, ces données objectives, c'est le nombre de redoublements, tout simplement, dans l'établissement, le taux de réussite aux examens, la réponse apportée au premier choix d'orientation formulé par les élèves, le climat d'établissement. Je parle précisément du premier choix d'orientation formulé par les élèves parce qu'on mesure à quel point c'est quelque chose d'important. Et le ministre encore vient de rappeler l'expérimentation dont il a demandé que s'engage une académie qui porte précisément sur ce travail d'orientation et d'accompagnement au plus tôt pour certains élèves d'un projet personnel d'orientation. Je crois que c'est une expérimentation qui s'engage sur l'Académie de Limoges et qui va être très intéressante. Alors, le principe de l'expérimentation, je dirais tout d'abord que quand on parle d'expérimentation article 34, pour nous, il ne s'agit pas de vouloir en quelque sorte modéliser ou généraliser tel ou tel projet, mais plutôt d'analyser une évolution des enseignements en termes à la fois de contenu, bien sûr, et de méthode. Les nouveaux modes de fonctionnement qu'induit une expérimentation dans chaque établissement sont réels. On y voit la mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative, le rôle très important du chef d'établissement, les partenariats qu'il suscite, bien sûr, mais aussi compte tenu du temps qui est donné par l'article 34 d'une expérimentation qui s'engage sur plusieurs années, de la possibilité tout au long du projet des réajustements. Des réajustements parfois rendus nécessaires, parce qu'après tout, l'expérimentation article 34, eh bien, c'est un projet vivant. Ça veut dire, c'est un terme un peu imagé, mais ce que je veux faire ressortir là, c'est dire qu'il s'agit d'une démarche qui laisse toute sa place aux compétences, bien sûr, de ces acteurs, à leur capacité à s'adapter aux nouvelles exigences qui peuvent survenir. Une expérimentation, c'est forcément pour une équipe, à la fois d'abord une volonté de s'engager dans quelque chose qui est une innovation, qui est nouveau, qui répond à une exigence, à une demande, à une volonté, à la volonté d'une équipe. Et c'est forcément aussi parfois l'acceptation de modifications qui interviennent au cours de cette expérimentation. Ça ne peut pas être quelque chose qui s'inscrit comme ça de manière très mathématique, si j'ose dire. Sur 4 ou 5 ans. Alors, j'ajouterais aussi, par exemple, s'agissant du socle commun, mais on verra davantage au collège, mais de toute façon, qu'il y a une exigence quant à l'évaluation et l'importance que représentent ces évaluations pour nous permettre d'apprécier la plus-value pédagogique apportée par les expérimentations dans chaque académie. Alors, je parle bien sûr de plus-value pédagogique, mais je pourrais parler aussi de la plus-value éducative, parce que quand on parle d'expérimentation et quand on parle d'un établissement scolaire, on va forcément parler de la plus-value pédagogique et éducative. Hein. Ce qu'on constate aussi très clairement, c'est que le rôle des IPR, IA, le rôle des personnes qui accompagnent une expérimentation est essentiel. On s'aperçoit bien, à travers les remontées que nous avons des académies, que lorsque dans les services académiques, les inspecteurs accompagnent une expérimentation, c'est vraiment un plus. C'est vraiment pour les équipes un encouragement. Hein. C'est quelque chose, ça, de très, très important. Quand on parle d'expérimentation, je dirais aussi, j'ai envie d'utiliser un vocable qu'on utilisait davantage, qui est peut-être plus général, c'est le terme d'innovation. C'est vrai que parfois, quand on parle d'évaluation, c'est un peu dérangeant pour certaines équipes d'enseignants, parce que l'évaluation induit parfois, dans certains esprits, à la fois une notion un petit peu d'évaluation-récompense ou d'évaluation ou de récompense, ou alors à la limite de sanctions presque, je dirais. Pour certains enseignants, c'est un petit peu ça. On parle d'évaluation, ils y voient un regard sur leurs pratiques. Alors qu'il ne s'agit pas du tout d'un regard sur les pratiques. C'est un regard, quand il est sur les pratiques, qui est intéressé. C'est un regard qui nous permet à tous d'avancer. C'est un regard qui nous permet, non pas forcément, de, comme je le disais précédemment, de vouloir à tout prix modéliser quelque chose, mais de retenir le meilleur, de pouvoir, nous, valoriser ce qui est positif, accepter ce qui l'est moins, parce que par nature, quand on expérimente, eh bien, on prend des risques. On prend des risques qui sont tout relatifs, hein, parce que les équipes enseignantes n'envoient pas les enfants comme ça, enfin, ne dispensent pas n'importe quoi. Mais tout simplement, elles innovent, donc c'est un travail en commun, c'est le travail de toute une équipe, souvent. Et bien évidemment, il y a des fluctuations, il y a des modifications qui interviennent, ça c'est très très important. Ça pour nous qui les voyons remonter, puisque vous nous transmettez, puisqu'on vous demande de nous transmettre et de nous remonter ces informations, c'est extrêmement intéressant, c'est passionnant. Ça donne vraiment envie de venir voir de plus près parfois. Mais bien évidemment, on s'en gardera, parce que les équipes éducatives n'ont pas besoin de ça. La liberté pédagogique, c'est ça aussi.
Bonjour, monsieur.
Ne vous interrompez pas pour moi.
Voilà, alors rapidement, je dirais très simplement qu'il convient réellement pour nous de soutenir la créativité des équipes. Monsieur le recteur, dans votre académie, on voit bien que vous apportez un intérêt tout particulier à l'expérimentation, à l'innovation, dans le sens plus général du terme. Et je dirais que, outre le nécessaire appui aux initiatives émanant des écoles, des établissements, etc., tel que prévu dans le cadre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, il convient de susciter leur réflexion en tenant compte des problématiques locales, bien sûr, et des orientations nationales. Encourager les équipes éducatives à exercer leur créativité, leur responsabilité pour proposer des démarches et des organisations nouvelles est de nature à contribuer à la réussite de l'élève. Et ce qui nous importe à tous, c'est forcément, bien évidemment, la réussite des élèves. Ces expérimentations, elles doivent à la fois favoriser l'acquisition des connaissances et des compétences indispensables à tous, mais elles doivent aussi permettre un accompagnement individualisé de l'élève, de manière à l'aider, par exemple, à faire un choix d'orientation éclairé qui favorise sa réussite. Pour terminer, mais bon, je suis prête à répondre à toutes vos questions, je dirais que l'expérimentation, qu'elle soit d'initiative locale, académique ou nationale, elle doit être accompagnée, c'est-à-dire faire l'objet d'un diagnostic, de l'identification des objectifs à atteindre, des modalités à mettre en place et d'une évaluation qui permette d'en apprécier les résultats. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Pardonnez-moi tout d'abord d'arriver avec du retard, mais il était impossible ce matin d'entrer et de sortir du rectorat. C'est une forme de créativité, d'expérimentation. On diffère sur les indicateurs d'évaluation. Donc, peut-être tout d'abord, ce qui était prévu et le plus brièvement possible, puisqu'on a pris un petit peu de retard par rapport à l'organisation de vos travaux. D'abord, bien sûr, des paroles de bienvenue qui s'adressent à la DGESCO, qui s'adressent bien sûr à l'INRP. Bienvenue dans une académie, vous l'avez évoqué, qui est réputée pour l'excellence de ses résultats et qui tient une partie de l'excellence de ses résultats à son souci, justement, de l'innovation et de l'expérimentation. Et une académie qui est, du point de vue institutionnel, engagée actuellement dans la rédaction de son projet d'académie, qui à un cinquième axe centré sur justement la modernisation, l'expérimentation, une modernisation qui est à soi sur l'innovation des enseignants et la valorisation de cet engagement des enseignants, l'autonomie des établissements dans lequel évidemment les enseignants mettent en œuvre leur engagement, leur professionnalisme et puis liée à cette autonomie de l'engagement et à cette valorisation, cette autonomie pardon, des établissements et cet engagement des enseignants, tout le problème de la gouvernance de l'académie, du pilotage de l'académie, d'un pilotage justement par une performance des élèves, une réussite des élèves qui est un indicateur partagé par les enseignants, les établissements et l'autorité académique. Donc voilà les paroles de bienvenue pour situer un petit peu l'académie qui vous accueille. Le situer aussi, ces paroles de bienvenue, dans le cadre du partenariat et d'un partenariat avec le monde universitaire, le monde de la recherche, aujourd'hui bien sûr, avec l'Institut national de la recherche pédagogique. Et je suis vraiment très très heureux de vous accueillir à travers votre présence à la tribune, Monsieur Bois. Mais au-delà même de l'INRP, je pense en particulier tous les liens qu'il nous faut tisser, renforcer avec, d'une manière générale, la recherche universitaire. Et je trouve que Nantes est l'une des universités où existe une équipe réputée de recherche sur les sciences de l'éducation et, d'une manière générale, sur de réflexion sur l'institution scolaire. Il est important, évidemment, que nous sachions profiter de cette présence et sachions, dans le respect, bien sûr, de la liberté de recherche des enseignants, chercheurs universitaires, mais en même temps, souvent dans leur souci d'être au plus près du terrain, d'être capable de profiter justement de leur présence. Et je me réjouis que la journée d'aujourd'hui soit un bon exemple de lien entre les praticiens que nous sommes et en même temps les enseignants-chercheurs soucieux d'une recherche qui débouche sur des réalisations pratiques. Je salue bien sûr en particulier le travail, les travaux qui sont menés là avec l'équipe de Jean-Louis Deruet et l'UMR éducation et politique. Pas seulement d'ailleurs dans le cadre de ce colloque. Saluer bien sûr aussi la DGESCO et tout le travail, vous l'avez rappelé à l'instant, que nous menons ensemble, ce souci dans une académie d'être à la fois soucieux bien sûr des spécificités locales, régionales, et en même temps bien sûr d'inscrire ces spécificités dans un cadre national, européen aussi, et que représente justement, que nous rappelle continuellement la DGESCO. Et j'évoquais à l'instant l'international, c'est aussi l'un des points du projet d'académie, faire en sorte que nos partenariats avec nos amis étrangers, qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse d'autres pays, nous avons récemment signé un contrat de partenariat, une convention de partenariat avec l'État du Maine aux États-Unis. Nous allons bientôt signer avec le Schleswig-Holstein. Faire en sorte que ces partenariats ne soient pas, comme ils le sont et comme ils doivent l'être traditionnellement, des conventions de partenariat d'échange entre élèves, entre enseignants, mais aussi en ce qui concerne, je dirais, toute la réflexion sur le système éducatif, faire en sorte que nos corps d'inspection, nos chefs d'établissement, l'encadrement soient eux aussi associés à ces échanges pour faire en sorte que nous bénéficions du regard de nos partenaires sur notre propre système éducatif et qu'ils soient associés à l'évaluation justement de nos expérimentations, à l'évaluation de nos établissements. Et ceci, je crois que c'est important, puisque l'un des thèmes principaux de votre journée est sur l'évaluation de l'expérimentation, alors même que l'on sait qu'il y a une réflexion, et une réflexion critique aujourd'hui sur l'évaluation. Il suffit de prendre le dernier numéro de la revue d'histoire moderne et contemporaine. Pour ceux d'entre vous qui sont historiens, il est consacré à l'évaluation et il est consacré de manière critique à l'évaluation. Et le dernier numéro de la revue citée, par exemple, numéro 37, est aussi consacré à l'évaluation et à l'évaluation dans le système scolaire, attirant l'attention sur les spécificités de l'évaluation. On les connaît, qui sont dues au fait que la temporalité de l'éducation n'est pas la même temporalité que quand vous construisez des autoroutes ou lorsque vous étudiez la production d'automobiles, c'est évident que le temps humain, le temps de vie d'un élève, les indicateurs de performance, sont-ils seulement scolaires? Sont-ils aussi éducatifs? Sont-ils la réussite humaine? Comment mesurer la réussite humaine? On sait bien que là, ce sont des questions fondamentales qui ne doivent pas nous conduire à abandonner la réflexion sur l'évaluation en disant on ne peut pas mesurer parce que c'est au-delà du mesurable et en même temps on ne peut pas effectivement se contenter d'avoir des indicateurs simplistes annuellement définis et uniquement par exemple déterminés par la réussite scolaire. Il y a évidemment toute une véritable éthique de l'évaluation à mettre en place. Et c'est peut-être les trois points que je voudrais très rapidement évoquer avec vous au démarrage de cette journée. D'abord, bien rappeler que justement l'évaluation est un outil d'évolution et un outil de changement et non pas une notation. Je crois que c'est vraiment un combat qu'il nous faut mener. On reste encore trop marqué par l'idée que évaluer, c'est noter. Et donc, en quelque sorte, positionner, c'est bien, à quoi servent les notes? Elles servent à positionner, et parfois c'est nécessaire. On est dans un concours de recrutement, il nous faut des reçus, il nous faut des collés. On va positionner les gens sur une échelle de notes. Et tous ceux qui ont été dans un jury sélectif savent très bien d'ailleurs que on doit écarteler au maximum les bonnes notes et les mauvaises notes pour justement éviter le marais du milieu, de façon à vraiment arriver à savoir qui on retient, qui on écarte. L'évaluation n'a rien à voir avec ça. L'évaluation, elle est justement pour pouvoir se situer et se situant pour pouvoir évoluer. Une évaluation est en quelque sorte toujours une évaluation, pour reprendre notre jargon, formative. Et je crois que c'est évidemment très très important d'arriver à gagner ce combat sur l'évaluation. Beaucoup de nos collègues sont en position de repli par rapport à l'évaluation parce qu'ils ont le sentiment que ça va être une notation de leur travail, y compris dans l'expérimentation. Alors qu'en réalité, il s'agit de savoir quels objectifs on veut atteindre, ce que l'on veut faire, et à partir de là, et en comparant avec d'autres expérimentations ou d'autres opérations, dispositifs similaires, comparables, arriver à se situer, à savoir si on a atteint ces objectifs, et si on ne les a pas atteints, pourquoi, quelles sont les raisons, qui ne sont pas, c'est pas bien ou mal, c'est essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, bien rappeler que l'évaluation est un outil d'évolution et donc un outil de changement et non pas d'abord un instrument de mesure, un étalon. Alors, du coup, ça vaut bien sûr pour le thème de la journée aujourd'hui sur l'évaluation d'une expérimentation et on ne peut pas concevoir une expérimentation qui ne soit pas construite avec tout de suite les instruments d'évaluation. L'évaluation ne vient pas a posteriori, en se disant tout d'un coup, ah tiens, on va évaluer ce que nous faisons. Non, on construit son projet avec, inclus dans son projet, l'évaluation. Comme on construit un cours avec, dans la construction même de son cours, les instruments d'évaluation, précisément parce que cette évaluation n'est pas externe, elle est un élément qui contribue à la progression. Donc, il faut évidemment l'inclure dès le départ. Mais vous savez tout cela. Donc, rappelez que, justement, cette évaluation, elle n'est pas réservée aux expérimentations article 34. Elle vaut pour tous nos actes pédagogiques. Et il faudrait, de ce point de vue, être attentif à ce que, très légitimement, aujourd'hui, vous travaillez sur l'expérimentation, mais ne pas considérer que l'évaluation serait réservée à l'extraordinaire et aux expérimentations article 34. Non, l'évaluation, elle accompagne tout acte pédagogique, y compris, bien sûr, y compris l'expérimentation. Simplement, ce qui est très intéressant dans l'expérimentation, c'est qu'au fond, précisément parce qu'on est en situation d'expérimentation, il faut inventer sans doute ces indicateurs. Alors que lorsqu'on est dans une situation, entre guillemets, normale, les indicateurs nous sont donnés souvent par l'institution. Je reprends la maîtrise du socle commun, vous l'évoquiez tout à l'heure. Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences, c'est une mission qui vaut pour tout le système scolaire, école et collège. Et donc, les indicateurs qui vont nous permettre de mesurer cela, ils sont dans les PAP et ensuite dans les RAP pour jargonner. On n'a pas à inventer nos propres indicateurs. La loi de finances nous donne l'indicateur à suivre. En revanche, une expérimentation, précisément parce qu'elle est une expérimentation, va nous conduire à construire, le cas échéant, un indicateur spécifique. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'évaluation, et vous l'avez rappelé, elle est centrée sur la performance des élèves. C'est sous le terme la réussite des élèves, avec justement la difficulté de savoir exactement ce qu'on entend par la réussite des élèves, qui n'est certainement pas la réussite seulement scolaire des élèves. C'est évident que c'est autour de cette performance des élèves qu'il faut centrer, et je ne reviens pas justement sur les difficultés que cela a et le souci de bien d'être capable d'articuler, je dirais, l'évaluation régulière que les enseignants font. Tous les enseignants à longueur de temps évaluent leurs élèves implicitement ou explicitement, et comment articuler cette évaluation régulière, même si elle est justement parfois réduite à une simple notation des élèves, comment l'articuler à nos évaluations. Je crois que c'est un des grands enjeux, c'est d'arriver justement à bien articuler l'ordinaire de l'enseignant à l'extraordinaire. Et d'arriver à surmonter le sentiment trop souvent répandu qu'on ne peut progresser que par de l'extraordinaire. L'idée qu'on voit souvent dans les établissements, c'est ce qu'on fait à la périphérie du temps scolaire, ce qu'on fait en plus, l'atelier théâtre, l'atelier sport. Ça, on a l'impression que là, on progresse, on fait autre chose. Et du coup, le temps scolaire lui-même, le programme, est en quelque sorte dévalorisé. Et il faut arriver à bien articuler l'un et l'autre, de façon à comprendre que c'est au cœur même du dispositif scolaire que l'innovation doit se mettre en place, que l'expérimentation doit se mettre en place. Elle n'est pas une cerise sur le gâteau, elle n'est pas un supplément d'âme, elle doit être au cœur même du dispositif, en quelque sorte, ordinaire. Et puis, troisième et dernier élément, et ça rejoint, ça prolonge ce que je viens de dire, bien arriver à articuler évaluation externe et auto-évaluation. Il faut impérativement que les enseignants et les équipes éducatives soient maîtresses de l'évaluation. Qu'elles soient donc capables d'une auto-évaluation. Qui dit auto-évaluation ne veut pas dire abandon d'un regard externe. Le regard externe est un des éléments qui va me permettre à moi-même de m'évaluer. Mais nous ne progresserons que s'il y a bel et bien une capacité des équipes éducatives et des enseignants eux-mêmes à s'auto-évaluer. C'est un vrai problème sur l'inspection. Considérer que l'inspecteur n'est pas là pour une intrusion, mais là pour confirmer la capacité d'un enseignant à évaluer lui-même sa fonction d'enseignante, sa fonction enseignante, et que l'inspection ne doit pas être déconnectée d'une capacité d'auto-évaluation de l'enseignant. On essaye aujourd'hui d'amener nos élèves à être justement capables de s'auto-évaluer, je pense, à l'évaluation sur les langues, sur les compétences dans le cadre européen. C'est rendre l'élève autonome dans son évaluation, et nous ne rendrions pas les enseignants eux-mêmes autonomes dans leur évaluation et les établissements eux-mêmes autonomes dans leur évaluation. Non, il faut qu'on arrive justement à donner à chacun les bases mêmes de son autonomie, et le premier élément de son autonomie, c'est sa capacité à évaluer lui-même ce qu'il fait. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, couper du monde extérieur, mais à intégrer l'évaluation externe dans la capacité à auto-évaluer. Voilà, un petit peu très brièvement, ce que je voulais dire en entrée au début de cette journée. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment franchir les grilles barricadées du rectorat. Donc vous le voyez, c'est une journée méthodologiquement importante, hein, et elle est concentrée évidemment sur un point fort, l'évaluation, l'expérimentation et l'évaluation de l'expérimentation, mais elle va bien au-delà de ce point focal sur lequel vous vous concentrez. Elle est une véritable réflexion, évidemment, sur le rôle de l'évaluation dans l'acte pédagogique. C'est important pour la réflexion que nous menons, évidemment, dans l'Académie de Nantes, mais j'imagine à l'échelle nationale et au-delà. Ne pas oublier, bien sûr, encore une fois, l'objectif de l'évaluation, qui est de permettre justement d'évoluer, de progresser dans une évaluation qui est nécessaire, d'une école toujours à réformer. Si on s'amusait à latiniser en comparant avec Scuola Semper Reformanda, hein, je crois que notre école est toujours à progresser, doit toujours progresser, et l'évaluation est faite pour cela. Et du coup, et c'est le dernier mot, vous remerciez évidemment de la qualité de vos travaux tout au long de la journée, j'imagine pour les chercheurs, j'imagine pour les praticiens que c'est fondamental. Sachez que c'est aussi pour un responsable académique la matière dont il s'inspire pour, avec vous, avec tous les enseignants, piloter son académie. Il n'y a pas de pilotage où le recteur serait isolé, terme naval, isolé sur la dunette de son navire. C'est justement un navire où tout le monde est embarqué, et ce pilotage ne peut être justement qu'un pilotage partagé, même si, bien sûr, à un moment donné, il faut impulser telle ou telle direction, mais on ne peut bien impulser la direction que si on est sûr que tous les marins sont chacun à leur poste, prêts et d'accord avec l'ordre qui va être donné. À la limite, on le mesure en ce moment. Nous ne réussirons à progresser de ce point de vue que si nous arrivons à rétablir ce climat de confiance, à rétablir justement une capacité commune d'évaluation, d'où l'importance de votre journée.
Merci. Je vous souhaite le bonjour à toutes et à tous. Mes fonctions, c'est d'être responsable du service formation à l'INRP, et c'est à ce titre donc que je vous souhaite la bienvenue au nom du directeur de l'Institut. Je vous rejoins tout à fait, monsieur le recteur, nous sommes tous embarqués. Ça, c'est la seconde fois que nous sommes embarqués avec l'Académie de Nantes en 2 mois, et dans les 2 cas, donc, c'est à votre invitation que nous sommes venus travailler ici. Et j'ai donc l'occasion de vous remercier directement, puisque vous êtes ici. Je remercie bien sûr aussi Christine Ladret, qui est chargée de mission à l'innovation auprès de vous, et qui a assuré la maîtrise d'œuvre de ces 2 journées avec Jean-Luc Drouet, son équipe côté INRP, cette équipe travaillant elle-même d'assez près avec l'Académie de Lyon. Et nous sommes sur une mise en réseau intéressante. Alors, c'est peut-être le lieu de dire très vite, bien sûr, ce qui incite l'Institut national de recherche pédagogique aussi fréquemment à projeter ses forces hors les murs et à traverser la France d'est en ouest. En 2 mots, au point de départ, on va dire il y a à peu près 4 ans, c'est une idée assez simple qui est d'encourager les chercheurs de la maison et au-delà, tous les chercheurs avec lesquels ils travaillent en réseau, assurer ce que j'appellerais par raccourci une sorte de service après-recherche, en proposant aux formateurs d'enseignants, au cadre éducatif, de partager ce que leurs travaux leur ont permis de mettre au jour. non pas seulement sous forme de publications, d'interventions en colloque, de rapports d'expertise, ce qu'il faisait déjà très bien auparavant, mais dans le cadre de séminaires de formation conçus comme tels. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes. Si l'on veut, on a affaire, enfin l'idée est d'établir une sorte de circuit court de diffusion où la recherche accepte d'être jugée, je dirais, aussi à l'aune de l'action et où il assume sa vocation, pour ce qui concerne la recherche en éducation en tout cas, qui est d'accompagner les changements du système. Vous voyez que nous sommes au cœur de la problématique de ces journées. Et donc il s'est produit deux choses. Le service formation ne dit pas ça pour se flatter. Les chercheurs de l'Institut ont accepté d'investir une partie de leur temps et de leur énergie dans cette activité dérivée. Et le public visé, celui que je nommais tout à l'heure, a manifesté son intérêt en nous rejoignant d'un peu partout en France. Bon, ce n'est pas une grosse entreprise, ce sont à peu près 800 personnes qui fréquentent annuellement nos formations. Ces personnes qui nous rejoignent, la plupart du temps à Lyon, bien sûr, parfois, Christine Adrien disait tout à l'heure, dans des formations délocalisées, comme ici à Nantes, ce sont soit des formateurs de formation initiale, ceux qu'on appelait jusqu'ici formateurs d'IEFM, et puis aussi ceux qui ont la charge de la formation continue dans les académies. Ils ne sont pas forcément d'ailleurs formateurs à temps plein. Il y a beaucoup de gens qui font ça en même temps qu'une activité d'enseignement. Et d'ores et déjà, si on regarde les chiffres, alors bon, non, ça ne vaut pas évaluation, mais ce sont quelques indicateurs, la majeure partie du public nous vient des académies, nous est envoyée par les académies qui leur établissent des ordres de mission. Il nous arrive donc aussi de nous rendre sur place à la demande des académies, ce que nous faisons 4 fois cette année et donc 2 fois à Nantes. Alors, je laisserai bien sûr le soin à Christine Adrien et Jean-Louis de Rouet de vous présenter le contenu des 2 journées en détail. La thématique me paraît illustrer parfaitement les préoccupations, la préoccupation qui est la nôtre d'accompagner les évolutions, je le disais tout à l'heure. Je vous remercie toutes et tous d'être présents. Je vous souhaite 2 journées constructives et enrichissantes. Et alors il y aura, ça c'est un petit écho pour Monsieur le Recteur, comme nous le faisons à chaque fois, une évaluation à chaud à la fin des 2 journées pour mesurer, nous allons dire très modestement, le degré de satisfaction des intervenants. Mais c'est un peu plus que cela dans la mesure où nous en faisons ensuite la synthèse et nous le renvoyons à ceux qui ont organisé. Et par rapport aux 2 journées précédentes, nous pouvons affirmer qu'un certain nombre de remarques qui avaient été faites ont été prises en compte pour essayer d'améliorer.